La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Et aujourd'hui, dans notre studio FM+, nous avons une invitée, Léa Thomabian. Elle est sémiologue. Elle est toute jeune et malgré sa jeunesse et son intrépidité, elle a depuis 4 ans mis en place un cabinet de sémiologie et elle vous en parlera certainement mieux que moi. Et c'est justement sur ses recherches en sémiologie et plus précisément le bestiaire, les animaux, qu'elle en est arrivée au conte et que c'est comme ça que nous pouvons nous rencontrer et parler de toutes ces histoires qui viennent de la nuit des temps. Donc Léa, s'il te plaît, présente-toi à nos chers auditeurs.
Bonjour, bonjour à tous. Donc je m'appelle Léa et ça fait maintenant, comme tu l'as dit Anne, plusieurs années que j'exerce en tant que sémiologue, c'est-à-dire que j'étudie les signes, les symboles et comment ils font du sens à travers les récits qui façonnent un petit peu l'humanité. Et donc c'est à la suite d'un mémoire en sémiologie médiévale. J'ai étudié la symbolique du bestiaire dans un recueil de contes du 12e que j'en suis venue à m'intéresser plus largement à l'univers du conte et de ses symboles.
Et qu'est-ce qui t'émeut dans ces histoires anciennes?
Alors, beaucoup de choses, en tout cas dans le recueil que j'ai, avec lequel j'ai rencontré l'univers des contes, il y avait été beaucoup question d'amour, de merveille, d'aventure, de quête et d'initiation dans un sens très large. Et je dois dire que notamment le premier conte que j'ai rencontré dans ce recueil s'appelle Guijmar, qui est l'histoire d'un chevalier qui est très habile à la chasse. Et qui finit par tuer une biche blanche. Et cette biche, un peu comme une malédiction, va lui exprimer qu'il ne pourra jamais aimer. Et donc toute l'histoire de Guijmar, ça va être justement d'aller à la recherche de l'amour, alors même qu'il est maudit. Et donc on va le voir embarquer sur une nef sans équipage, aller dans l'autre monde, rencontrer une femme, elle aussi, enfermée et soumise à un mari jaloux. Et voilà, suite à des serments qui sont très beaux, très symboliques, qui vont finir par se retrouver. Et ça, c'était un peu le genre d'histoire que j'avais sous les yeux pendant 2 ans et qui m'ont donné très envie d'aller en savoir un peu plus sur les contes et plus largement sur la mythologie, les légendes, en tout cas sur tous ces récits qui font appel un peu à notre monde intérieur et qui font écho aux quêtes un peu existentielles qu'on peut avoir, nous.
Donc tu as aussi rejoint une association de conteurs où tu étudies avec eux. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai rejoint cette association après toi. Où nous étudions donc la symbolique, où nous nous interrogeons sur la symbolique des contes. Et qu'est-ce qui est le plus important, l'amour ou quoi d'autre encore?
L'amour, c'est merveilleux dans les contes, mais moi j'adore aussi comprendre ce qu'on veut mettre derrière ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne comprend pas. Moi, je pense aux contes éthiologiques, ceux qui racontent les origines de telle ou telle particularité physique d'un animal. Je trouve que c'est très poétique et ça me plaît beaucoup quand il y a des contes qui sont un peu dans cet esprit-là. Et sinon, les contes d'initiation, les contes où il y a une grande quête avec plein d'épreuves, ça me plaît beaucoup aussi.
Et est-ce que ça a une implication dans ton rapport au monde ?
Oui, parce que à force d'étudier et les contes et la mythologie et tous ces récits-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'écho à ce qu'on porte en nous et ça vient complètement changer mon rapport à ce qui m'entoure parce que je ne peux plus passer à côté d'un tilleul sans penser à un conte avec le tilleul, plus passer à côté d'un écureuil sans penser à la légende qui explique pourquoi il a telle bande sur le dos. Oui, ça change mon rapport immédiat au monde, ça le poétise complètement et ça a beaucoup changé mon parcours.
Et peux-tu nous dire à nos chers auditeurs, quel est ton conte préféré?
Mon conte préféré, c'est difficile de choisir, comme d'habitude. Mais mon conte préféré, je crois que c'est un conte que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je crois que toi, tu le connais très bien. C'est Le Voyage de Parisade. Un conte issu des Mille et une Nuits, que je trouve foisonnant de couleurs et de sensorialité. Oui, je crois que ça a été mon coup de cœur le plus récent. J'aime beaucoup le fait que ce soit aussi une femme qui réussisse à dénouer un petit peu l'histoire. Je trouve que c'est très poétique le fait qu'elle... les épreuves soient finalement personnifiées par un arbre qui parle, un oiseau qui chante, ou c'est le contraire ?
C'est un oiseau qui parle, qui dit la vérité.
Voilà.
Et l'arbre qui chante.
Et l'eau d'or.
L'eau jaune, oui.
Et ça, c'est vraiment, je trouve, d'un point de vue symbolique, je trouve que c'est très très beau. Donc ça, je pense que c'est un de mes contes favoris, en tout cas de l'année. Là, j'ai beaucoup aimé le parcourir.
Et comment t'es arrivée dessus ?
Alors, je suis arrivée dessus parce que déjà j'aime beaucoup l'univers des Mille et une Nuits. C'est quelque chose que j'avais même voulu étudier. J'avais voulu dédier mon mémoire à ça en fait, à la symbolique orientale. Et j'avais failli étudier ça. Finalement, ça s'était pas fait. Finalement, mon corpus était plutôt. Enfin, ça a été un corpus de textes bretons, de les bretons, du XIIe siècle. Mais je suis arrivée dessus parce que je suivais une conteuse qui en proposait une version. Alors en plus de ça, elle est très forte, c'est très immersif quand elle conte et j'avais tout de suite toutes les images. Je me souviens très bien de où j'étais quand je l'ai écoutée parce que c'était très puissant quoi, sa façon de le dire. J'en suis venue à ce conte-là par ce biais-là. Et elle-même, je ne sais pas. Quelle version exacte elle a. En tout cas, je l'ai écoutée beaucoup de fois. Et oui, c'est cette femme qui s'appelle Galina Kojanova, qui a un podcast qui s'appelle Le Reflet des Contes, dans lequel elle a étudié ce conte-là, Le Voyage de Parisade. Et j'étais fascinée par Parisade, en fait, par cette femme.
Oui, moi, je le connais, ce conte, dans les Mille et un Jours, et il n'est pas nommé Parisade. Elle n'a pas de nom. Personne n'a de nom. Mais
il y a quand même ces trois objets. Alors, ces trois objets magiques,
oui,
tout pareil. La structure est la même.
Oui. Donc, c'est un conte qui t'a marqué. C'est un conte que tu as étudié aussi
Pas vraiment. Lui, c'est vraiment dans mes... Comme des petites pépites là, que j'aime ressortir. Je ne l'ai pas étudié. Je pense que d'ailleurs, je ne sais pas si je l'étudierai tout de suite. J'aime bien garder juste ce qui m'a fait... ce qu'il a reflété de mon monde intérieur... Mais à terme, sans doute que je l'étudierai. Pour l'instant, je le mets un peu quelque part à part, le temps de le...
Dans le tiroir, ouais. Prêt à sortir. Et le conte que tu as étudié dernièrement, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Comment tu es tombée dessus et comment tu t'y es prise pour l'acquérir ?
Alors, le dernier conte que j'ai étudié, je dirais, il y en a deux. Il y a le prince serpent. Je ne sais pas si tu le connais,
oui,
celui-là.
Oui, bien sûr.
Avec les trois robes.
Oui.
Et alors celui-là, la première fois que je l'ai entendu, j'étais complètement fascinée. Je n'avais jamais entendu quelque chose de similaire avec trois robes superposées. Donc j'ai étudié celui-là. Et j'ai étudié une version qui s'appelle La Belle et le Monstre, qui est une version de Guyenne. Et comment je fais en général ? Alors celle-là, je l'ai eue d'un conteur. Je me suis formée une semaine l'initiation à l'art du conte avec une asso qui s'appelle le Dahut Téméraire, pas loin de Toulouse. Et c'était, je crois, un des derniers contes parce que pendant la formation, finalement, il ouvrait toujours. Tous les jours, il ouvrait avec un conte et il fermait avec un conte. Et je crois que c'est le Prince Serpent. C'est un des contes qui a été utilisé à la toute fin de la semaine, donc vraiment qui m'a beaucoup marquée. Et je le tiens vraiment de cet homme-là. Et je suis très heureuse parce que c'est un conte que j'aime beaucoup. Et donc, en général, ce que je fais après pour l'étudier, je vais chercher les différentes versions, les versions similaires, le motif dans la classification Arne Thompson que ça vient chercher. En général, ça m'éclaire déjà beaucoup. Et ça me permet aussi de le retenir et de retenir les grandes étapes clés. Donc ça, c'est le prince serpent. Et encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai étudié le conte du Genévrier, dont on a parlé déjà toutes les deux, que j'ai trouvé aussi très fort et qui m'a beaucoup interrogée sur l'oiseau et la symbolique de l'oiseau. Oiseau, j'ai dédié la dernière partie de mon mémoire, c'était sur les oiseaux, sur voilà, leur symbolique, qu'est-ce qu'ils servent comme symbolique dans notre imaginaire. Et dans mon mémoire, c'était surtout savoir est-ce que le christianisme a la main mise sur toute la symbolique, j'allais dire céleste, ou alors est-ce qu'a préexisté au christianisme quand même réussi à exister un petit peu en filigrane. Et dans mon corpus, j'avais le rossignol, le cygne, un chevalier autour, donc un genre d'épervier. Et je crois que c'est tout. J'ai dit un rossignol.
Épervier.
Épervier. Un cygne. Et voilà. Et déjà, c'était vraiment très très beau d'étudier ça, parce que chez les Celtes, par exemple, le cygne, c'est en ça que se métamorphose une partie du Panthéon pour aller de l'autre côté, pour aller dans l'autre monde, qui est en fait... on ne peut y aller qu'en volant, puisque c'est, il faut passer la mer, il faut passer de l'eau. Et du coup, les déesses, elles se transforment en cygnes, et c'est très présent dans l'imaginaire celte. Donc j'avais beaucoup aimé ça. Et donc voilà, le conte du Genévrier, avec cette histoire d'oiseau qui naît un petit peu comme un phénix, ça m'a vraiment interrogée, et ça m'a donné envie d'aller replonger dans mes recherches de ce côté-là. Et celui-là, le Genévrier, je suis tombée dessus en faisant un peu des recherches par rapport à Parisade et à un autre conte qui s'appelle Les Trois Pommes d'Orange, dans la version que j'ai trouvée dans un recueil qu'on m'avait conseillé justement pendant la formation, qui est un recueil de contes merveilleux, essentiellement européens pourtant, et qui me semblait être un peu le pendant masculin de l'histoire de Parisade, où là, c'est trois frères, et c'est le cadet qui va arriver à faire... que la situation se rétablisse, et il va à la recherche d'un pommier fantastique qui fait des pommes d'orange, qui n'existe pas du coup, évidemment. Et oui, j'avais l'impression que c'était un peu le miroir de Parisade, mais masculin finalement. Et donc en fait, de fil en aiguille, ça m'a mené au conte du Genévrier, parce qu'il y avait une histoire d'oiseau, quelque part.
Mmh. Et les contes qui sont si terribles que le conte du Genévrier... qu'est-ce que ça peut apporter pour toi ou pour d'autres? Comment tu peux t'en servir? Pour en faire quoi?
Alors moi, je m'en sers pour dans le cadre d'une transmission que je propose, pour permettre aux gens de se reconnecter un petit peu avec l'héritage culturel, parce que c'est assez invisibilisé, sauf si on est dans des cercles évidemment très particuliers, mais en général, la plupart des gens n'ont pas vraiment accès à tout ça. Évidemment, on peut ouvrir un recueil de Andersen, on peut ouvrir un recueil de Grimm, de Perrault, mais au-delà de ça, je trouve qu'on j'allais dire le véritable héritage, sans faire de hiérarchie là-dedans, mais il est difficile à trouver. Et c'est quelque chose de très précieux pour moi. Et je pense que ça peut faire écho à des problématiques, comme on en parlait aussi plus tôt, toutes les deux, de donner de l'espoir aussi face aux épreuves de la vie, en disant que, ça, peut-être parfois on a la sensation que le sort s'acharne, mais finalement on est assez fort pour dépasser ça. Et donc je fais attention à ne pas édulcorer des récits. Effectivement, le conte du Genévrier, il est quand même assez terrible, il est assez sombre, et pour autant, je trouve que on a toujours quelque chose à apprendre, et parfois, c'est des prises de conscience qui se font à retardement, qui se font plus tard. Et je trouve que c'est important, et c'est là que je me place aussi dans mon métier de sémiologue, c'est de repeupler les imaginaires, et de pas subir un imaginaire qu'on n'a pas choisi. Et de dire voilà, ça a existé, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins peut-être que ça peut vous donner des clés de lecture du monde différentes, et surtout ça peut vous je sais pas moi, évoquer une sorte de connexion avec quelque chose de plus grand. Je pense que les symboles c'est éminemment spirituel, hein, et c'est pour ça que c'est remonté jusqu'à nous depuis la nuit des temps, c'est que c'est la substance, elle est spirituelle. Et c'est la littérature qui leur a permis d'hiberner jusqu'à nous. Ça, c'est Mirsa Eliade, je ne sais pas si tu vois ce qu'il sait, qui en parle, un historien des religions. Et je trouve ça très beau quand il en parle des symboles.
Oui, nous reconnecter avec notre histoire, notre humanité, par-delà les frontières, par-delà les générations, par...
Il n'y a pas de frontières, il n'y a plus de frontières. Plus tu comptes et plus tu découvres. Enfin, moi, je compte pas en tant que telle, mais j'avais lu une interview de Jean-Luc Lekelec, dont je parlais tout à l'heure, je crois. Et lui, il disait on pourrait quasiment remplacer Homo sapiens par Homo narrans, celui qui raconte des histoires, parce qu'on fait ça depuis la nuit des temps, quoi.
Les histoires nous pétrissent. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi, à sa façon, la psychanalyse. On est pétri par nos histoires, qui des fois nous enferment. Et en parlant, on en sort de l'enfermement.
Mais ça me fait penser à ce conte, moi, qui m'a. Avec lequel. C'est peut-être le conte avec lequel j'ai la relation la plus émotionnelle. Parce qu'en fait, pareil, comme le Genévrier, il est assez triste. Donc, c'est pas un conte vers lequel j'ai envie d'aller ou que j'ai envie d'aller lire souvent. Mais c'est La petite fille aux allumettes. Et comme je te disais, je l'ai découvert dans l'anthologie de Clara Pinkola Estes, qui est dans le livre qui s'appelle « Les femmes qui courent avec les loups ». Et quand je l'ai lu, ça a été la crise de larmes, quoi. Alors que je ne l'avais jamais entendu. Je n'ai pas du tout eu une enfance et un rapport au conte très tôt dans ma vie, ça n'a pas été présent. Mais quand j'ai lu ça, et c'était il y a quoi, 5-6 ans, hein, c'était il n'y a pas très longtemps, vraiment, j'ai senti que ça faisait écho à une histoire personnelle et que c'était presque une sorte de catharsis, quoi. En lisant ça, j'avais l'impression de reconnaître une partie de moi que j'avais un peu laissée dans le déni, mais de l'ordre de la filiation, avec cette grand-mère. Enfin, il y a quelque chose de très fort pour moi. Et donc là, ça se situe ailleurs. C'est un conte avec lequel j'entretiens vraiment une relation toute particulière.
Et tu l'as déjà raconté ?
Non, mais je ne sais pas si je suis prête.
Mais c'est quelque chose à faire un jour.
Mais est-ce que j'arriverai à le faire sans pleurer ?
Mais ce n'est pas grave. La première fois, peut-être que tu pleureras. Mais la deuxième fois, beaucoup moins. Et la troisième fois, pas du tout. Le tout, c'est d'oser commencer la première fois.
Oui, oui.
Donc, il faut se mettre dans des... excellentes conditions, avec des personnes très bienveillantes.
C'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé moi, à compter un petit peu, faire des petits ateliers en disant « bon, ben, je vais vous raconter l'histoire de cette femme-là, de cette femme-là ». Et ça m'a préparé à ce que j'ai fait à des tout petits groupes dans des centres de yoga. Où je proposais des ateliers contés sur la mythologie hindoue. Ça a commencé comme ça, des tout petits groupes. Mais c'est différent puisque c'est des personnes qui ont les yeux fermés, qui sont allongées la plupart du temps, donc vraiment en posture de réception. Et ça, je pense que ça m'a aidée à prendre confiance pour commencer à compter avec des gens qui ont les yeux ouverts et qui te regardent. C'est encore autre chose. Mais là, moi, elles ne me regardent pas, elles sont en train de se détendre. Et ça m'a permis de compter des grandes histoires comme le Ramayana, qui est l'épopée un peu Roméo et Juliette, mais de l'Inde. De Rama et Sita, qui sont deux amants. Et voilà, ça m'a aidé dans un premier temps d'avoir des gens qui ont les yeux fermés.
Si tu devais inviter une jeune personne à compter, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ?
Je crois que je lui conseillerais de se mettre devant un feu qui crépite et d'ouvrir un livre et de voir... de prêter attention à la façon dont les images s'entremêlent et se déroulent dans son monde intérieur, et de faire ça plusieurs fois. Et après, ben, y a potentiellement quelques personnes qui vont se rajouter autour du feu et la parole se déliera d'elle-même, quoi.
Et grâce aux allumettes, le feu sera.
Exactement. Tout à fait.
Est-ce que tu veux nous parler des personnes que tu rencontres dans ton cabinet et des missions qui te sont demandées ou...
Bah oui, je peux en parler rapidement. Je peux dire que j'aide en général les entreprises à construire ce qu'on appelle un storytelling en le reliant à ce qu'on va appeler, ce que moi j'appelle l'héritage culturel collectif. À permettre à ces entreprises de réaliser que leur message n'est pas unique, n'est pas sans lien avec le passé, qu'on n'est pas une génération spontanée. Et du coup, de leur permettre de faire des liens et d'avoir le poids de l'héritage culturel qui vienne aussi densifier tout ça. Mais je propose aussi des enregistrements audio, justement, où je vais chercher tout le patrimoine culturel en lien avec... ça peut être des oiseaux, ça peut être des thèmes bien spécifiques. Là, j'ai une mission avec des déesses, déesses de la mythologie grecque, où là, je dois aller chercher beaucoup de parties de leur vie pour proposer quelque chose d'un peu innovant pour une entreprise qui veut proposer ça à ses clients. Donc ça, c'est un grand travail de recherche. Je fais aussi du décryptage de campagnes publicitaires. Notamment, la dernière en date, c'est une campagne de Burberry qui met en scène une femme qui est en fait, selon moi, un avatar d'Atalante, qui est une chasseresse de l'Antiquité, qui fait aussi, du coup, par voie de conséquence, référence à Cybèle, qui est une des magna mater antiques. Et donc ça, c'est un exemple. Et je suis aussi en lien avec une association qui raconte le vivant, pour laquelle j'ai beaucoup fait de recherches sur les animaux fantastiques, sur le vivant et l'imaginaire. Et tout ça, ça s'est rendu possible par beaucoup de penseurs qui m'ont inspirée. Je te parlais plutôt de Claude Lecouteux, qui est un grand médiéviste. Philippe Walter aussi, qui ont beaucoup étudié sur l'imaginaire, le Moyen-Âge et ce qu'on appelle les petites mythologies, ce qui va être en fait les traditions populaires, en opposition à la tradition savante qui va être les grandes mythologies gréco-romaines. Et on va avoir évidemment Michel Pastoureau, qui a retracé toute l'histoire des couleurs et de beaucoup d'animaux. Lui, il a fait sa thèse sur le bestiaire, justement. Et ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont permis de savoir où chercher. Comme Jean-Loïc Lequellec aussi, qui est un anthropologue et spécialiste du paléolithique, qui a fait beaucoup de recherches sur les premiers mythes de l'humanité. Enfin, tout ça, c'est des choses qui me passionnent vraiment et qui ne sont pas si éloignées du conte.
Bien sûr. Et, chers auditeurs, nous avons bien l'intention de revenir avec Léa autour de l'oiseau. Parce que nous avons vu que nous avions en commun de nombreux contes d'oiseaux et d'autres pas en commun, et que nous allons vous régaler les oreilles avec toutes les histoires qui sont dans nos mémoires, à Léa comme à moi-même, n'est-ce pas?
Oui, on a beaucoup d'oiseaux dans nos tiroirs et dans nos malles au trésor, et je pense que ça va être très, très riche de les faire dialoguer tous ensemble.
Eh bien, voilà, chers auditeurs, chères auditrices, vous allez avoir donc des surprises dans les mois qui vont venir, où nous commencerons par les oiseaux. À très bientôt!
How many saw that? How many saw that? How many saw that?